Radio Kapi.
Oh, Kapi. Patience Ngalula Banangue pour le journal. Les titres de cette édition d'information, une mission de la CENI séjourne à Yokama au nord ou Bangui pour s'imprégner des conditions d'organisation des législatives nationales et provinciales dans cette entité, initialement annulée par la CENI pour raison des fraudes. En Nord Kivu, l'armée congolaise appelée à redoubler d'efforts pour récupérer les entités occupées par le rebelle du M23. Ces propos sont d'un acteur sociopolitique local en réaction aux conclusions du sommet de chefs de l'État de l'Union africaine qui s'est penché entre autres sur la question de la crise sécuritaire entre la RDC et les Rwandais. Le premier ministre Samalou Kondé n'a jusqu'à présent pas déposé la démission de son gouvernement conformément à la recommandation de la Cour constitutionnelle. Cela bien que les délais de 8 jours accordés aux concernés de choisir entre les sièges à l'Assemblée nationale et leur fonction actuelle expirent ce mardi. Gary Sakata, professeur des droits et député national, nous en parle dans ce journal. Bonjour. Reprise des élections législatives nationales et provinciales à Yokama, au nord Bangui. Une mission de la CENI séjourne sur place afin de s'imprégner des conditions d'organisation de ces scrutins et de l'évolution de préparatifs. En effet, les élections de cette entité ainsi que celles de Massimanimba au Kwilu étaient annulées par la centrale électorale pour notamment la fraude. Selon Paul Muindo, rapporteur adjoint de la CENI qui conduit la délégation, la mission va échanger avec toutes les couches sociales. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
La CENI nous a envoyés sur place pour venir explorer les conditions d'organisation de ce scrutin. Mais l'objectif, c'est de préparer tous les éléments afin que les élections que nous allons organiser ici puissent être dénuées de tout cas de violence et que les élections s'organisent dans les conditions de paix et dans la transparence. La population doit savoir qu'elle a besoin d'avoir des représentants digne de cette circonscription. Ces représentants seront votés par elle. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que la CENI utilise des matériels qui doivent être protégés par tous. Et donc, tous les acteurs, que ce soit la police, que ce soit les candidats, que ce soit la population, nous devons tous concourir afin que les élections que nous allons cette fois-là organiser soient des élections qui soient les meilleures et que toute forme de violence, toute forme de fraude ou de vandalisme des noms matériels ne devrait plus jamais se répandre.
Et puis, les femmes candidates non élues aux législatives du 20 décembre 2023 dans la région de Butembo, Beni, Lubero, au Nord Kivu, plaident pour leur prise en compte dans les prochaines nominations. Une délégation des femmes leaders et des candidates séjourne à Kinshasa afin de rencontrer les différents responsables des formations politiques pour cette cause. Dans une interview à Radio Kapi ce lundi, Patience Sinamouli, point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED au Nord Kivu, qui conduit la délégation, affirme que la nomination de ces femmes pourra les encourager pour les futures élections. On écoute Patience Sinamouli au micro de Grace Amzati.
Les femmes ont pris des risques dans des zones très insécures où elles devaient être exposées à plusieurs abus. Mais elles ont fait quand même l'essentiel d'elles-mêmes. Elles ont postulé, elles ont fait des campagnes, elles ont obtenu des voix, mais n'ont pas été proclamées. Et nous nous sommes dit rester sur place à poser un acte serait pour nous un travail inachevé. Donc nous sommes revenus vers les mêmes autorités morales pour leur dire que ces femmes ici ont travaillé. Elles ont contribué pour que la liste a-t-elle essayé, bien qu'elles n'ont pas été proclamées, mais nous savons d'ici quelques matins les nominations vont commencer et s'ils alignaient les femmes parmi celles-là qui seront nommées. Parce que nous en avons marre de voir que tous les jours les enfants, les cousins, les oncles, les partenaires, les autres, occupaient les places de celles-là qui ont milité. C'est pour cette cause que nous sommes venus plaider la cause des femmes candidates. Et nous pensons que c'est vraiment le bon moment d'engager cette femme qui a cette ambition. Imaginez si quelqu'un peut obtenir 7000 voix, 5000 voix, sans moyens financiers. Et si elle soit engagée dès maintenant, imagine à 2028, elle serait peut-être proclamée parmi les meilleurs élus.
Sortie officielle hier lundi à Kinshasa de la nouvelle plateforme politique dénommée Alliance des partis politiques extra-parlementaires de l'Union sacrée, APU. Elle est dirigée par 4 cofondateurs, dont Crispin Kabasele Chimanga. Cette plateforme est constituée des partis politiques qui ont atteint les seuils à l'issue des élections du 20 décembre dernier, mais qui n'ont pas eu des sièges. Johnny Luboya, l'un des cofondateurs, dont les objectifs de cette plateforme au micro de Richard Junior. Kamunga.
Être une plateforme ressource devant concevoir les stratégies au service du chef de l'État dans son combat pour le développement intégral et harmonieux de la nation et le plein épanouissement du peuple congolais. Réhabiliter les valeurs morales telles que l'amour de la patrie, la solidarité, l'éradication du tribalisme, du clanisme, régionalisme, de l'obscurantisme, de la divination de gouvernants, du culte de la personnalité et de toute forme de discrimination, véritable cancer qui ronge notre société, sans oublier les détournements, réhabiliter et valoriser notre patrimoine culturel, pour autant qu'il ne soit pas contraire aux impératifs du développement et aux bonnes mœurs. Contribuer à l'émergence de la démocratie participative.
Politique toujours, l'Alliance Bloc 50 a signé dimanche à Kinshasa l'acte d'engagement afin de réaffirmer son appartenance à la majorité parlementaire. C'est ce qu'a expliqué Julien Paloukou, autorité morale de ces regroupements politiques. Il l'a déclaré en marge d'une séance de travail avec l'informateur Augustin Kabouya. Julien Paloukou l'a dit à Paul Matendo.
Nous sommes venus, sur invitation de l'informateur, réaffirmer notre appartenance à la famille politique du président de la République. Et au sein de l'Assemblée nationale, réaffirmer que nous appartenons bel et bien à la majorité parlementaire. Et comme nous avons eu 20 députés nationaux, nous avons signé l'acte d'engagement pour que tous les sociétaires de notre regroupement réunis ici réaffirment effectivement qu'ils appartiennent bel et bien à la majorité parlementaire. Et l'étape suivante sera celle d'engager chacun des députés à pouvoir confirmer cela parce que comme président ici, société de l'Alliance Bloc 50, nous avons engagé l'ensemble des élus et il appartiendra dans une deuxième étape que chaque élu maintenant s'engage individuellement.
Dans la province du Maniema, après consentement, les deux chefs coutumiers qui vont compléter les nombres des députés provinciaux du Maniema ont été désignés ce lundi 19 février au secrétariat exécutif provincial de la CENI Maniema. Il s'agit du chef coutumier Salumu Kalombola Marungu pour le territoire de Kasongo et le chef coutumier Kudia Kayendia Kabongola du territoire de Punya pour Elias Babinganya Bantu, chargé de la formation au secrétariat exécutif provincial de la CENI Maniema. Son institution est heureuse d'accomplir cette étape du processus électoral. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, l'État reconnaît l'autorité coutumière. Et aujourd'hui, nous avons organisé la séance ou l'opération dite opération de désignation. De quoi s'agit-il? Nous avons reçu les présélectionnés de 7 territoires et de la ville de Kindu. Nous avons donc reçu les représentants des territoires et les représentants des groupements incorporés. Ils se sont concertés et ils sont tombés d'accord. Comme c'est des sièges, ils ont choisi des territoires. Les territoires de Kasongo et les territoires de Punya. Pour les territoires de Kasongo, c'est le chef coutumier Salumu Kalombola Marungu. Et pour le territoire de Punya, c'est le chef coutumier Kujiakae Ndia Kabongola. Voilà là les deux chefs coutumiers qui vont représenter les autorités coutumières au sein de l'Assemblée provinciale.
Je le disais au sommaire, au Nord Kivu, la RDC, à travers son armée, est appelée à redoubler d'efforts pour récupérer les entités occupées par le rebelle du M23 et restaurer l'autorité de l'État dans ces entités. C'est ce préalable qui pourra donner la force aux efforts diplomatiques et politiques pour trouver une solution durable à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC, notamment l'agression à travers le M23. C'est le point de vue exprimé par un acteur sociopolitique local en réaction aux conclusions du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, clôturé dimanche et qui s'est penché entre autres sur la question de la crise sécuritaire entre la RDC et les Rwandais. Étienne Kambale, membre de la société civile thématique Bonne Gouvernance, s'exprime au micro des Sifamaguru.
La force de défense a des obligations pour restaurer la paix dans les entités conquises par l'ennemi. Aussi longtemps que la République démocratique du Congo ne pourra pas conquérir les entités militairement et les conquérir politiquement, les forces de défense et les services spécialisés seront fragiles et ça sera difficile de restaurer l'autorité de l'État dans ces entités. Et si cela n'est pas fait, nous risquons de tomber dans le même piège que le Soudan a connu. Nous rappelons les autres autorité qui anime les institutions de la République démocratique du Congo, que la population a besoin d'un soutien, d'un guide pour récupérer les entités. Si cela est fait militairement, le Congo pourra s'imposer diplomatiquement. On ne pourra pas remporter les victoires diplomatiques et pourtant sur les lignes de front, nous n'avons pas encore conquis Kichanga. Nous n'avons pas encore conquis Chiché, nous n'avons pas encore conquis Kiwanja.
Dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, environ 50 combattants candidats à la démobilisation et la réinsertion communautaire ont déjà fait défection depuis 3 mois du site PDDRCS des Kassando. C'est un village situé à environ 7 kilomètres de la commune rurale de Kirumba. Selon les responsables en charge des désarmements dans ces sites, les mauvaises conditions de prise en charge et la durée jugée longue du processus sont à la base de cette situation. D'après Philemon Kambale, les sites PDDRCS des Kassando, qui hébergent actuellement 110 personnes, a bénéficié le 8 février dernier d'un appui en vivres de la MONUSCO. Il s'agit de la farine, de maïs, du riz, du lait, du haricot et du sucre. Des rebelles ADF ont intensifié les attaques en l'espace d'une semaine dans plusieurs localités dans la chefferie des Banyarichabi à 120 km au sud d'Irumu. Au moins 4 personnes ont été tuées et d'autres blessées, ce qui a entraîné des déplacements des populations, dont essentiellement des retournés des guerres, affirment des sources concordantes. Les activités agricoles sont paralysées et les trafics entre Bunia et Kainama tournent au ralenti en raison de la présence de ces rebelles à la périphérie des Tchabi Centre. Isaac Remoyopé.
Au moins 4 attaques des ADF ont été rapportées la semaine dernière dans la chefferie des Banyarichabi. Samedi, ils ont fait incursion près d'une position de l'armée ougandaise à Banjingi, dans les chefferies de la chefferie, en tirant des coups de feu pendant environ 1 heure. 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées, précise le président de la société civile. De nombreux habitants ont fui dans la localité voisine et sont revenus dimanche. Après échange de tirs, les militaires ougandais ont réussi à déloger ces rebelles. Selon des sources locales, des autres attaques de cette force négative ont été enregistrées jeudi à Baleï et Belou, où une personne a été abattue. Un autre groupe de ces mêmes groupes armés s'est introduit mardi à Singi sans faire de victimes. Ces attaques à répétition ont créé une psychose dans la zone et poussent la population et poussent les habitants à éviter de se rendre dans leurs champs. Selon la société civile locale, les habitants asphyxiés manquent de nourriture. Les trafics qui étaient suspendus dimanche a repris lundi sur l'axe Bunia-Kainama-Beni. Pour cette structure, les forces conjointes doivent démanteler ces groupes armés pour le développement des activités socio-économiques. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le comité de pilotage du cadre des coopérations des Nations Unies pour le développement durable a tenu une réunion d'orientation préparatoire à la première réunion du comité de pilotage conjoint. C'était hier lundi à Beatrice Hotel à Kinshasa. Cet exercice de redévabilité, de réflexion et d'orientation a été initié sous le leadership de ministère des Affaires étrangères et de la francophonie ainsi que celui du plan avec la participation des ministères sectoriels. Vanessa Congolo, reportage.
Au cours de cette réunion, les participants ont eu droit à la présentation de recommandations de la revue annuelle 2023, de la restitution de l'évaluation du cadre de coopération 2020-2024, ainsi que de recommandations de l'analyse commune de pays, avant de finir par la lecture et l'adoption des dites recommandations. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, revient sur quelques orientations.
C'est d'une part travailler plus sur la question des causes que des symptômes. Faire en sorte que les Nations Unies soient vraiment à la disposition du gouvernement pour aider à la mise en œuvre, à la formulation, à la mise en œuvre et au pilotage des grandes politiques publiques de développement. Il y a des politiques publiques dans différents domaines pour devenir une source d'appui-conseil aux autorités nationales. Il y a aussi de ne laisser personne pour compte.
Présent à cette rencontre, David Pelengano, directeur chef des services de coopération multisectorielle et représentant du secrétaire général de la coopération internationale, a exprimé sa satisfaction quant aux performances obtenues dans la mise en œuvre du plan national stratégique de développement. Il a cependant souhaité que les décisions stratégiques pour l'amélioration de l'efficacité du programme soient prises.
Actualité internationale.
Le renvoi des migrants en mer vers la Libye a été déclaré illégal par la plus haute cour d'appel en Italie. Salué par les associations caritatives et les groupes de défense des droits de l'homme, l'arrêt qui a été déposé au début du mois a été qualifié de définitif. La Cour de cassation a également confirmé la condamnation du capitaine de l'assaut 28. Les propriétaires de ces remorqueurs italiens avaient en 2018 secouru 101 migrants à bord d'un canot pneumatique avant de les renvoyer en Libye.
L'invité.
Les délais de 8 jours accordés aux membres du gouvernement du Sénat ainsi que des institutions provinciales frappées d'incompatibilité de choisir entre les sièges à l'Assemblée nationale et leurs fonctions actuelles expirent ce mardi. Sont concernés par cette mesure plus de la moitié de membres du gouvernement, en commençant par le premier ministre Samalou Kondé, 3 sur 4 vice-premiers ministres, plusieurs ministres et vice-ministres. Cependant, jusqu'à ce matin, le premier ministre n'a jusqu'ici déposé la démission de son gouvernement, conformément à la recommandation de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer si les concernés n'élèvent pas l'option d'ici minuit? Pour en parler, nous recevons dans ce journal Gary Sakata, professeur de droit et député national. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Gary Sakata, bonjour.
Bonjour, Michel Kifinda.
Le délai de 8 jours accordé aux nouveaux députés qui occupent encore des fonctions, soit au gouvernement, soit au Sénat, soit dans les institutions provinciales, expire aujourd'hui à minuit. Qu'est-ce qui adviendrait si ces derniers ne se prononcent pas conformément à la loi?
Alors, si une personne frappée d'incompatibilité ne se prononce pas dans le délai de 8 jours imparti, l'on suppose donc qu'il a renoncé à son mandat de député national. Ainsi donc, tous les ministres au niveau national et au niveau provincial qui ne se seront pas prononcés aujourd'hui mardi 20 février jusqu'à minuit sont supposés avoir définitivement renoncé à leur mandat de député national. Cela équivaut donc à démission et ils n'y reviendront plus jamais pour cette mandature.
Le Premier ministre devrait en principe présenter la démission de son gouvernement telle que recommandée par la Cour constitutionnelle, mais cela n'a pas été fait. Pensez-vous qu'il y a eu vice de procédure?
Mais à mon avis, il n'y a aucun vice de procédure. Le simple choix fait par le Premier ministre ou le membre de son gouvernement en faveur de la députation nationale vaut démission d'office. Il n'est donc pas nécessaire de formaliser cela par une lettre de démission. Ne pas le faire, en tout cas, ne viole pas la loi. Et pourtant, à mon avis, le faire pourrait éventuellement renforcer la clarté dans le choix opéré.
Puisque le délai de 8 jours accordé à tous ceux qui sont en incompatibilité expire ce mardi, qu'est-ce que ces derniers doivent faire concrètement pour respecter les lois et règlements de la République?
Alors, les ministres nationaux comme provinciaux doivent faire une option. Soit rester au gouvernement, soit venir à l'Assemblée nationale, donc comme député national. Si l'on fait l'option en faveur de la députation nationale, il faudrait alors écrire au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Le fait pour un ministre d'adresser sa lettre d'option en faveur de la députation nationale au premier ministre ou à son gouverneur ne produit aucun effet. La preuve qui compte est celle du dépôt au secrétariat du bureau provisoire de sa lettre d'option en faveur de la députation nationale. Et il faudrait que ce soit clair là-dessus.
Nous avons échangé avec certains membres du gouvernement qui affirment avoir levé l'option pour leur siège à l'Assemblée nationale, mais ils disent qu'ils vont rester au gouvernement pour continuer à expédier les affaires courantes. N'est-ce pas là une façon de continuer à cumuler les fonctions?
Michel Kifinda, moi je suis tenté de penser que les ministres qui ont opté pour la députation nationale doivent abandonner illico presto, donc dès ce mercredi, leur charge exécutive, parce que 8 jours après, ils sont revêtus du mandat des députés nationaux, lequel ne peut être cumulé avec les charges exécutives. Sinon, on se trouverait dans une hypothèse des personnes qui sont à la fois juges et parties, ou en tout cas contrôlées et contrôleurs, ce qui n'est pas normal dans un état de droit.
Près de 2/3 des membres du gouvernement sont concernés par cette incompatibilité et devront quitter le gouvernement pour siéger à l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'il va être facile d'organiser l'intérim?
Pour moi, je pense que l'intérim devra être assuré par le vice-ministre des secteurs concernés. Et là où il n'y a pas de vice-ministre, un ministre peut être appelé à cumuler plusieurs portefeuilles. Mais, et surtout, s'il y a eu plusieurs ministres qui ont été élus, on peut également envisager l'hypothèse où les secrétaires généraux exercent l'intérim et assurent la continuité des services publics. De toute manière, dans notre pays, ça ne sera pas du nouveau. On a déjà plusieurs fois vécu. Et les secrétaires généraux qui représentent l'administration sont parfois les mieux placés pour continuer à gérer les affaires publiques. Parce que de toute manière aussi, les ministres ne travaillent que grâce et avec l'appui des secrétaires généraux.
Professeur Gary Sakata, je vous remercie.
Michel Kifinda et Radio Okapi, c'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session de Vos Nouvelles sur Radio Okapi, mise en onde par Pierre Diassinois, sous la supervision et coordination des Pele Kipela Mondo. À la présentation, Patience Ngalula. Merci à vous tous de nous avoir suivis.